Brassage sur RCN, Hélène Ingret.
Bonjour auditrices et auditeurs, et bonjour aussi Mathis Baudouin, qui sera le second compère pour cette spéciale Saint-Nicolas. Bonjour Mathis.
Bonjour Hélène.
Alors justement, cette légende de Saint-Nicolas, eh bien, ces différents extraits sont tirés d'un ouvrage. Il décline beaucoup de thèmes sous l'intitulé de la collection Les Patrimoines avec le Dauphiné libéré. Et c'est de Saint-Nicolas au Père Noël. Alors le Père Noël, eh bien, vous l'entendrez dans un brassage qui aura lieu avant Noël. Et comme ce brassage est avant la Saint-Nicolas, eh bien, nous pourrons vous en parler davantage avec ces différentes rubriques. Je vous lis le sommaire, l'introduction. L'évêque de Myre, les objets de Saint-Nicolas, un culte universel, l'église Saint-Nicolas de Port, un saint aux multiples patronages, trois enfants au saloir, le saint de l'hiver, l'âme et l'âne de Saint-Nicolas, et bien sûr, le père Fouettard. Ensuite, il y a les concurrents, mais tout cela, eh bien, ça sera dans l'autre brassage consacré au Père Noël qui tient son origine aussi avec cette légende de Saint-Nicolas. Donc, tirée donc, de Saint-Nicolas au Père Noël, la collection des patrimoines, et il vous en coûtera un peu moins de 8 euros si vous voulez l'acheter ou le faire acheter à votre médiathèque la plus proche et ensuite vous l'empruntez. Introduction. Et on commence donc par cette introduction. Est-ce une profession de foi, la manifestation de piété envers un des principaux saints de la chrétienté, prié par les orthodoxes comme par les catholiques? Alors pour d'une façon culture générale, orthodoxe, c'est un des courants de la chrétienté. Bon, un peu plus extrémiste, on dirait, par rapport à d'autres courants qui sont par exemple plus réformateurs, comme par exemple les protestants. Il n'est pas nécessaire de choisir une réponse. La Saint-Nicolas participe de ces deux pôles. Elle s'est développée autour de la figure d'un saint évêque dont la vie, sans cesse réécrite, permet d'expliquer et de présenter les grands mystères de la religion. Très vite, les célébrations se sont concentrées sur l'hiver, agglomérant autour d'elles les peurs et les espoirs de populations rurales qui entrent dans, entre guillemets, mauvaise saison. Alors, qui est Saint-Nicolas? Le héros d'une saga antique, le support de rites d'aversion dans des mondes traditionnels, le vecteur du contrôle social ou un moyen pour maintenir l'équilibre des comportements. On peut voir aussi en lui, deux points, l'image même de la charité gratuite, le modèle du bon chrétien, la figure qui exalte les dogmes de l'Église. Qui est-il? Il est tout cela, et bien plus encore. Il est une figure historique et un être de légende. Il est un croyant et une invention sociale. Alors j'insiste, hein, une invention sociale. Il est surtout une des effigies les plus fortes de la culture européenne. J'insiste sur l'invention sociale parce que par la suite, eh bien, je vous relaterai un certain nombre d'éléments de cette légende. Je ne le mettrai pas au conditionnel, mais ça participe vraisemblablement aussi de cette invention sociale. Aujourd'hui, le monde s'est urbanisé et déchristianisé. Mais la Saint-Nicolas demeure avec ses deux versants, religieux et festif. Notre saint doit cependant faire face à la concurrence de Père Noël, né au début du XIXe siècle. Car Nicolas ou Noël portent des valeurs similaires. Mais pour ce côté similaire, eh bien, comme je vous l'ai dit, ça sera dans un prochain brassage. Au fil de cette émission, vous ne serez pas surpris, bien sûr, les illustrations auront trait à Saint-Nicolas avec des petites pépites. Et oui, Lucien Jeunesse, alors ça c'est pour ceux qui ont un peu plus de 20 ans, et particulièrement connu comme animateur du jeu des 1000 francs, à l'époque c'était encore des francs, hein, sur cette chaîne publique France Inter maintenant. Maintenant c'est le jeu des 1000 euros. Donc ça remonte, hein, Lucien Jeunesse. Et j'ai été surprise de voir qu'il avait chanté quelques chansons de Saint-Nicolas. Et justement, eh bien, je vous propose la première, bah, tout simplement La légende de Saint-Nicolas par Lucien Jeunesse.
Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ, s'en vont un soir chez un boucher. « Boucher, voudrais-tu nous loger ?»« Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. » Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme un pourceau. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer dedans ce champ, alla frapper chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger ? Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas si tôt entré qu'il a demandé à souper. Du petit salé, je veux avoir, qu'il y a 7 ans qu'est dans le saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de la porte, il s'enfuya. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint-Nicolas alla s'asseoir dessus le bord de ce saloir. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas. Et le saint étendant 3 doigts, les petits se lèvent tous les trois. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le second dit, et moi aussi. Et le troisième répondit, je me croyais en paradis. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ.
Au Moyen-Âge, la légende de Saint-Nicolas s'enrichit d'un de ses miracles les plus célèbres, la résurrection des 3 enfants. Elle serait due au poète normand qui compose une vie de Saint-Nicolas vers 1150. Donc, lentement, son histoire entre dans les légendaires. On la retrouve également dans d'autres légendes, dans une pièce, par exemple, latine au XIIIe siècle. L'histoire commence un soir d'hiver. Après avoir travaillé toute la journée au champ, 3 pauvres garçons errent dans la campagne quand la nuit tombe brutalement. Ils arrivent soudain devant la maison d'un boucher qui accepte de les accueillir. Il les fait souper et les installe dans une grange au milieu du foin, comme le dit la complainte populaire.
Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés tout par morceaux, mis au saloir comme pourceau.
7 ans plus tard, Nicolas passe dans la région. Il se rend immédiatement chez le boucher, à qui il demande l'hospitalité. Celui-ci le reçoit.
Entrez, entrez, Saint-Nicolas. De la place, il n'en manque pas.
Le saint veut manger et l'hôte essaye de le contenter.
Voulez-vous un morceau de jambon ? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau ? Je n'en veux pas, il n'est pas beau. De ce salé, je veux avoir qui a 7 ans, qui est dans le saloir.
À ces mots, le boucher tremble. Serait-il découvert ? Il préfère fuir. Mais le saint le rattrape et le ramène dans sa maison. Il pénètre dans le saloir et lève 3 doigts en prononçant une prière. Immédiatement, les enfants reviennent à la vie.
Le premier dit « J'ai bien dormi ». Le second dit « Et moi aussi ». A ajouté le plus petit « Je croyais être au paradis ».
Depuis son invention, cette histoire est devenue l'attribut même de Nicolas. La majorité des représentations le montrent debout près d'un baquet, d'où émergent trois enfants qui tendent les bras vers lui. Elle manifeste aussi la force d'une religion qui considère la résurrection comme un acte de foi fondamental. La présence de trois personnages est un leitmotiv dans la légende de Nicolas. Ce sont trois jeunes filles qu'il dote et trois soldats qu'il libère. Ce chiffre est le symbole de la Trinité, chère aux chrétiens.
Saint Nicolas, je n'ai rien. Rien qu'un petit cœur qui chante, comme un buisson en avril, comme un buisson en avril. Je n'ai ni carte ni plume pour t'écrire dans ton paradis. Ma bouche qui grelottait et le grand froid qui rôdait viennent tracer sur ma vitre en légers flocons de givre les vœux de mon petit cœur, de mon petit cœur. Saint Nicolas, je voudrais que cette nuit tu te penches vers ceux qui n'attendent plus, vers ceux qui n'attendent plus, que tu descendes pour eux vers ces pauvres enfants d'hier, ces tragiques petits vieux qui se courbe vers la terre comme pour y rechercher l'âme des Noël passés sous tant de neige emmitouflée, de neige emmitouflée. Saint Nicolas, je veux bien que mon soulier reste vide, mais fais que mon cœur soit plein. Mais fais que mon cœur soit plein du simple bonheur d'avoir deux pieds dansants comme la vague qui valse sur les rochers, deux yeux qui cueillent les nuages, deux bras blottissant mon cœur chaque soir au cou de maman, un rire de source au soleil, un rire de soleil sur toutes les vitres du monde. Le givre t'écrit au bon saint, la prière des pauvres gosses qui n'ont rien. Fais de toute leur misère au temps de Saint Nicolas, qui seront comblés de trésors, le soulier tristement vide, que chaque vieux garde dans son cœur.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Avec Mathis Baudouin dans cette spéciale Saint-Nicolas, tirée notamment de cet ouvrage des patrimoines du Dauphiné libéré de Saint-Nicolas au Père Noël. L'évêque de Myre. Donc le récit de la vie d'un saint mêle toujours étroitement histoire et légende. Nicolas naît vers 270 dans un port prospère de la province méridionale de l'actuelle Turquie. À ce moment, l'Empire romain traverse une grave crise. L'assassinat de l'empereur ouvre une période de troubles politiques majeurs. En moins de 20 ans, 7 souverains se succèdent, 5 étant assassinés par des rivaux. Au même moment, des incursions barbares fragilisent les régions frontières et un marasme économique frappe les populations. L'arrivée au pouvoir du général Dioclétien rétablit la paix. Il repousse les envahisseurs, mais ne parvient pas à abolir la misère. Dans ses premières années, Nicolas semble pourtant épargné par ses difficultés. Son père est riche et charitable. Ses parents le chérissent. Ils ont si longtemps attendu cette naissance. L'enfant est considéré comme un don de Dieu. Immédiatement, le nourrisson semble d'ailleurs... Excusez, mais quand je l'ai lu, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et à nouveau... C'est... Je vous lis le passage. Immédiatement, le nourrisson semble d'ailleurs faire preuve d'une extraordinaire piété, comme quoi la légende et la réalité se télescopent. Alors qu'on le baigne, il se dresse dans son bassin pour se tourner vers le ciel. Pendant 3 heures, il reste les mains jointes, c'est un bébé, hein, dans une prière muette. Plusieurs fois par semaine, il refuse le sein de sa nourrice pour jeûner en l'honneur de la passion de Jésus. Il est un chrétien parfait. Devenu orphelin très jeune, il se dévoue aux pauvres, leur abandonnant sa fortune. Apprenant ses mérites, son oncle, Nicolas l'Ancien, évêque de Myre, alors Myre ça s'écrit M-Y-R-E, l'appelle à ses côtés. Il l'ordonne prêtre et le fait supérieur du monastère. Réussissant parfaitement à gérer cette maison, le jeune homme se voit confier l'administration du diocèse pendant une absence du prélat. Mais la réussite semble un danger pour Nicolas qui décide d'abandonner titre et richesse pour se rendre en pèlerinage en Terre Sainte. Arrivé en Égypte, il guérit les habitants du Caire frappés par la peste, avant de s'enfoncer dans le désert pour rencontrer saint Antoine. Il est immédiatement tiré par la vie de reclus que mène le solitaire, une existence entièrement consacrée à la prière et à la contemplation. Il se rend en Palestine et visite les lieux de la Passion du Christ à Jérusalem pour revivre les épisodes bibliques et évangéliques. Pendant plusieurs jours, il se fait enfermer dans une grotte où, selon une tradition, la Sainte Famille se serait cachée pendant la fuite en Égypte. Il souhaite alors ne plus quitter ces lieux sacrés. Mais Dieu lui apparaît pour lui ordonner de rentrer. Il ne le destine pas à la contemplation, mais à l'action dans le monde. Immédiatement attentif aux grandes vertus du jeune homme, les chrétiens veulent le nommer évêque. Il résiste, mais une fois de plus, l'intervention divine l'oblige à accepter. Épisode caractéristique des vies saintes que nous retrouvons dans d'autres biographies. Vers 300, Nicolas devient donc évêque de Myre. Tout au long de son existence, Nicolas est le défenseur de l'Église. Il s'en prend d'abord aux cultes païens encore nombreux et actifs à cette époque. Il chasse aussi les fidèles d'Apollon qui affluent à Patara tous les 6 décembre pour honorer leur dieu qui apparaît dans leurs rêves. Cette date restera liée aux saints puisqu'elle correspond à sa fête. Cette évangélisation par la force n'est pas appréciée de tous, ben pour le moins quand même. Enfin, c'est moi qui rajoute pour le moins. Cette politique de christianisation n'est pas aisée car le christianisme n'est pas parfaitement installé dans l'Empire. Vers 300, donc, Dioclétien lance une vague de persécution. L'Église ne doit pas seulement lutter contre les attaques venues de l'extérieur, elle doit faire face à des remises en cause internes. Sur ordre de l'empereur Constantin, un concile œcuménique se réunit en 325. Plus de 200 prélats, donc Nicolas, assistent à cette réunion. Il fixe de nombreux aspects du culte, en particulier la célébration de Pâques, et définissent le credo de l'Église. Le dogme de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est instauré. Pour manifester l'importance de cet enseignement, le chiffre 3 demeurera attaché à tous les épisodes de l'existence de Nicolas. La légende de Nicolas joue avec ce contexte difficile. Par exemple, il y a la légende des 3 officiers qui est caractéristique. Une révolte ayant éclaté, Rome envoie 3 soldats rétablir l'ordre. Nicolas les accueille. Lors d'un repas, ils apprennent la condamnation à mort de 3 innocents. L'évêque se précipite, arrache l'épée de la main du bourreau et libère les prisonniers. Les trois militaires reprennent leur voyage et remplissent leur mission avec zèle. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtent à Constantinople. Là, des jaloux les accusent, à tort, de préparer un coup d'État. Jetés en prison, ils sont condamnés à mort. Se souvenant de l'action de Nicolas, ils l'implorent. Le prélat, miraculeusement prévenu, apparaît en songe à l'empereur, qui ordonne de les relâcher. Croyant à un sortilège, le souverain les convoque pour les interroger. La dignité de leur tenue et l'honnêteté de leurs réponses le persuadent qu'ils sont protégés par le ciel. Ils sont graciés et réintégrés dans leur grade. Nicolas sait aussi se préoccuper de ses ouailles. Ainsi, le grain étant venu à manquer, Dieu apparaît à l'évêque, lui apprenant qu'un marchand s'apprête à envoyer du blé vers l'Espagne. La nuit, il entre dans le rêve du commerçant à qui il remet 3 pièces d'or en guise d'art pour sa cargaison. Réveillé, le négociant ordonne à son bateau d'obéir à son songe. Non seulement il fait un substantiel bénéfice, mais en plus, il sauve la région de la famine. Quelques années plus tard, Nicolas sauve une nouvelle fois son diocèse de la faim. Une cruelle disette touche tout le Proche-Orient. Venant d'Égypte et se dirigeant vers Constantinople, un navire chargé de vivres fait halte à Myre. Immédiatement, Nicolas demande au capitaine de décharger. Celui-ci refuse, expliquant qu'il doit répondre sur sa vie de la quantité à livrer. L'évêque réplique que son don ne diminuera en rien sa cargaison. Les sacs de grains sont donc débarqués avant que le bateau reprenne la mer. Arrivé à destination, le capitaine découvre que son chargement est intact. Notre saint est donc bien le pourvoyeur de l'abondance, celui qui évite les pénuries en multipliant les grains. Il fait souvenir des miracles de Jésus lors de la noce de Cana. En intervenant dans les rêves, il investit un domaine qui semblait l'apanage d'Apollon, donc fêté auparavant le 6 décembre, Apollon, avant que Saint-Nicolas récupère donc cette date du 6 décembre, la légende traduit la réalité de l'action d'un prélat obligé de gérer une région. Elle symbolise aussi la récupération par l'Église d'aspects du paganisme, comme par exemple ses différentes dates. C'est moi qui rajoute comme par exemple ces différentes dates. Il a beau être saint, il meurt. Une mort exemplaire. Vers 335, affaibli, Nicolas sent la mort approcher. Il fait ses adieux à la population de Myre avant de se retirer dans un monastère. Ayant ainsi renoncé aux illusions du pouvoir, il se fait administrer les derniers sacrements. La légende assure qu'une foule d'archanges et de saints patriarches descend du ciel chercher l'âme du défunt. Son corps est ensuite mis dans un sépulcre de marbre. Il est enterré dans l'église du monastère et beaucoup de manifestations extraordinaires apparaissent alors au niveau de sa dépouille. Ultérieurement, à la place du temple païen, est érigée une église en l'honneur du saint. Une fête spécifique naît également. Elle se déroule donc le 6 décembre à la place des cérémonies en l'honneur d'Apollon, abolies par Nicolas. Donc, dans cette histoire, il est très difficile de démêler les faits avérés et la légende. À présent, une troisième illustration musicale chantée par Lucien Jeunesse. Eh bien, Saint Nicolas, patron des écoliers.
Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton, je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas, venez, 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 Saint-Nicolas, tra-la-la. « grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton, je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas, venez, 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 Saint-Nicolas, tra-la-la.
Saint-Nicolas est un saint universel aux multiples patronages. Alors, comme nous venons de l'entendre, bien sûr des écoliers, mais pas que des écoliers. Comme pour tous les saints, la légende qui entoure la vie de Nicolas est emplie de faits merveilleux. La légende de Saint-Nicolas, donc traduite en latin, est reprise et enrichie par les ouvrages médiévaux et au fil des rédactions, Nicolas devient le patron d'innombrables personnes. Ayant plusieurs fois aidé des enfants, il est le patron des écoliers. Ayant libéré 3 officiers, il est le protecteur des prisonniers et le patron des avocats. Le protecteur également des gens mariés. Ne désespérant pas de ne pas pouvoir donner de dot à ses filles, un habitant de Patard décide de les vendre à un bordel. Apprenant cela, Nicolas se glisse de nuit près de la maison et y laisse tomber une bourse de pièces d'or. Étonné, le père prend l'argent et marie son aîné. Peu de temps après, Nicolas fait de même pour la seconde puis troisième fille. Surpris en pleine action, il implore la famille de ne pas révéler son geste. Mais sa demande n'est pas entendue et, le lendemain, toute la ville sait la générosité de Nicolas. Ce passage de la légende transforme le saint en un puissant protecteur des jeunes filles et des gens à marier. Le 25 novembre, les jeunes filles de 25 ans sans mari, célèbre Sainte Catherine. Née en Alexandrie dans une famille noble, elle refuse de se marier pour se dévouer totalement à Jésus. Sainte Catherine, donc la fameuse Sainte Catherine en question. Elle est martyrisée sur ordre de l'empereur. Depuis, elle est la patronne des théologiens, philosophes, orateurs, notaires, étudiants, meuniers, plombiers, tailleurs, surtout des filles à marier. Pour les garçons, Nicolas joue ce rôle. Jusqu'au début du XXe siècle, il l'implore de leur trouver une compagne. Également, il est le patron des voyageurs. Au cours de sa vie, Nicolas fait plusieurs périples en bateau. Lorsqu'il se rend en Terre Sainte, il prédit au capitaine une furieuse tempête. Dès que le vent se lève, il se jette à genoux en prière sur le pont et repousse le démon qui menace de faire couler le navire. Quelques jours plus tard, il ressuscite un matelot qui s'était tué en tombant d'un mât. Une autre légende rapporte qu'un navire, perdu dans le brouillard, est sur le point de couler au large de Myre. Quand les marins voient dans le ciel un personnage lumineux leur indiquer la route. Arrivés au port, ils entrent dans une église pour remercier Dieu. Ils y découvrent, officiant à l'autel, l'évêque Nicolas. Ils reconnaissent immédiatement la mystérieuse apparition qui les a sauvés. Depuis, Nicolas est considéré comme le patron des marins et le protecteur des voyageurs. Des professions se mettent également sous sa protection, tels les bateliers de Paris ou autres commerçants obligés de voyager. Nicolas, quand notamment on l'admire lors du défilé, le fameux défilé à Nancy, eh bien, on surprend plus d'un à cause de ces différents objets. Et nous allons pouvoir en savoir justement davantage. Donc Saint-Nicolas s'est maintenant imposé dans l'imagerie. Pour savoir pourquoi il porte son costume, nous l'avons interviewé. Saint-Nicolas, pourquoi portez-vous ce grand manteau ?
Mais ce n'est pas un manteau, c'est une chasuble épiscopale.
Une chasuble épiscopale ?
Laissez-moi vous expliquer. C'est un vêtement à deux pans, sans manches, avec une ouverture pour la tête, que le prêtre passe au-dessus de son aube pour célébrer la messe ou réaliser certaines actions liturgiques. Les premiers clercs portaient un costume en forme de rotonde, les enveloppant totalement. Il fallait le relever pour bouger les bras. C'était, avoué, un peu pratique. Parfois, on avait besoin d'assistants qui portaient les pans pendant l'office. Vers le XVIIe-XVIIIe siècle, on a donc fait une large échancrure sur les côtés. C'est ce qu'on a appelé la chasuble à la romaine ou chasuble baroque. Elle s'est imposée partout. Puis, on a adouci la forme, on l'a faite plus petite, on a évasé le bas et resserré au niveau de la poitrine. À cause de ses dessins très particuliers, on l'a appelé chasuble violon.
Et votre chapeau ?
Ce n'est pas un chapeau, mais une mitre. La coiffure liturgique que les prélats portent durant les cérémonies. Elle est apparue en Occident vers 1140-1150. C'était d'abord un bonnet fermé, possédant deux bandes, les fanons tombant sur les épaules. Lentement, elle est devenue plus pointue pour atteindre sa forme actuelle au XVIIe-XVIIIe siècle. Les deux pans symbolisent les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau.
Saint-Nicolas, est-il vraiment pratique d'avoir à la main une crosse ?
Une fois de plus, cet attribut vient de mes anciennes fonctions épiscopales. Les premiers évêques portaient un taux grec à partir du XIIe siècle. Son extrémité s'est recourbée pour devenir une volute. Elle rappelle la houlette, le bâton des bergers. N'est-il pas écrit dans la Bible « Le Seigneur est mon berger » ? La crosse est donc le signe de celui qui dirige de façon paternelle. Vous voyez, mon costume n'a rien d'étrange, c'est celui d'un prélat. N'oubliez pas que j'ai été évêque de Myre.
Cependant, vous avez une hotte.
Ah oui, la hotte. Elle est bien pratique, quand j'étais évêque, je n'en avais pas. Mais maintenant, comment voulez-vous faire ? Dans quoi voulez-vous que je porte tous ces jouets ? J'avais essayé un grand sac, mais cela manquait de dignité. La hotte sur le dos, je peux porter. Oui. Ma crosse est conservée ma majesté. Elle me rappelle aussi tous ces pauvres gens dont elle était l'outil de travail. Ces innombrables porteurs que chacun méprisait. Ce simple instrument a gagné, grâce à moi, ses lettres de noblesse. Mon costume est celui d'un évêque qui dirige et récompense.
Alors, outre ces objets de Saint-Nicolas, eh bien, à côté de Saint-Nicolas, derrière Saint-Nicolas, devant où ? Le Père Fouettard. La naissance du Père Fouettard. Père Fouettard n'est pas une pure figure de l'imaginaire. Il est la déformation de personnages sanglants que la farce rend inoffensif. Il en est ainsi en Alsace, appelé Hans Trapp, il serait le souvenir du chevalier, donc Hans von Troyes. En Alsace, il serait le souvenir d'un chevalier des années 1450-1500 environ, qui a terrorisé le cloître et la ville de Wissembourg tout en entretenant de violentes querelles avec la papauté. En Lorraine, il serait né dans l'hiver 1552 à Metz. À cette époque, la ville est assiégée par l'armée de Charles Quint qui tente de reprendre la cité passée aux mains des Français quelques mois plus tôt. Mais les défenses royales sont formidables. Galvanisées par le duc de Guise, la population répare immédiatement les remparts ébranlés par l'artillerie impériale. Incapables de prendre la place, les assiégeants souffrent de la pluie et de la faim. Affaiblis, ils sont frappés par de terribles épidémies. En novembre, Charles Quint décide le retrait de ses troupes. Au même moment, les Messins, comme tous les ans, vont célébrer Saint-Nicolas. Pour célébrer la victoire, ils insèrent dans la procession un pantin symbolisant leur adversaire défait. Comme lui, il a une barbe et semble âgé. Il se moque de celui qui les a fait trembler. Cela devient une habitude. Désormais, Nicolas sera suivi de son repoussoir. En fait, le Père Fouettard a d'illustres ancêtres. Donc au niveau, par exemple, d'un monstre romain dont parlait déjà Platon, un monstre qui fut tué par Hercule, depuis chaque région a son croque-mitaine. Il porte 1000 noms, mais fait toujours partie de la même famille. Donc, Bonhomme 7 heures au Québec, Bugelsmann en Allemagne, etc. Anstrap, donc, en Alsace, L'Homme noir au Dauphiné, Barbaou en Bretagne, etc. Jean de Vert à Paris. Ces croque-mitaines ont leurs épouses. Père Fouettard et sa mère Fouettard. Elle s'appelle donc de différents. La vieille Graude dans les Alpes, la fée du mauvais trou et la chose vieille, etc. Moi, je rajoute également, il y a la fille du Père Fouettard et le fils du Père Noël, mais ça, c'est une autre chanson. Des monstres utiles. Ces croque-mitaines sont agités par les parents devant les enfants indisciplinés. Ils leur apprennent les bonnes manières. Donc, Der Schneider vient prendre ceux qui sucent trop longtemps leur pouce. Spéta et, ou d'autres s'emparent de ceux qui traînent la nuit dehors. Ou, par exemple, ceux qui s'approchent des rivières ou qui s'égarent dans les bois. La chose vieille punit ceux qui ne font pas leur prière avant de s'endormir et couche 8 heures ceux qui refusent d'aller se coucher. Pour les adultes, ils symbolisent l'hiver, les forces supraterrestres ou l'ignorance. En les promenant, une fois par an, ils exorcisent leur peur. Les croque-mitaines se situent à la frontière de la réalité et du conte, exutoire de toutes les angoisses des sociétés. Eh bien, nous allons nous faire une avant-dernière pause musicale et nous quittons un peu le côté légende de Saint-Nicolas pour une actualisation justement de cette légende avec Philippe Roussel.
Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, ne mets pas de chocolat dans mon petit panier. Si tu passes chez moi, j'ai une meilleure idée. Au grand Saint-Nicolas, pourrais-tu apporter la paix sur cette terre, même si c'est compliqué, et que cessent les guerres qu'on voit à la télé. Ces images terribles, remplace-les si tu peux. Ça doit être possible de voir un monde heureux. Au grand Saint-Nicolas, je voudrais cette année ni jouets, ni manga dans mon petit panier. Si tu passes chez moi, j'ai une meilleure idée. Au grand Saint-Nicolas, pourrais-tu apporter juste un peu de sagesse dans le cœur des plus grands? Je te fais la promesse que j'en aurai autant. Sage comme une image, te chantent les enfants. Mais quand on prend de l'âge, on l'oublie trop souvent. Au grand Saint-Nicolas, je voudrais cette année pas de bonbons, ça ira dans mon petit panier. Si tu passes chez moi, j'ai une meilleure idée. Au grand Saint-Nicolas, pourrais-tu apporter un peu de tolérance? Ce serait déjà beaucoup pour que nos différences nous enrichissent surtout. Un jour on comprendra que le monde est très beau. Merci Saint-Nicolas d'apporter ses cadeaux. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, tu sais les chocolats, tu pourras les donner à ceux qui n'en ont pas, qui n'ont rien à manger. Car tu vois, ici-bas, il y en a des milliers.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Pour terminer cette émission consacrée à la Saint-Nicolas, alors j'ai entre les mains, vraiment, c'est une mine d'informations. C'est tout le programme de Saint-Nicolas à Nancy. Ça a commencé donc à partir du 24 novembre jusqu'au 7 janvier. Et le temps fort, notamment ce fameux défilé, mais il n'y a pas que le défilé, loin s'en faut, du week-end du 9 et 10 décembre. Alors, ça a déjà commencé en illumination sur la place Stanislas, et plus particulièrement sur les murs de l'hôtel de ville. Chaque soir, à la tombée de la nuit, la façade de l'hôtel de ville prend vie grâce à la légende de Saint-Nicolas, spectacle vidéo grand format et poétique porté par la douce voix de la chanteuse Laura Cahen. Donc c'est un mapping enchanté, entre parenthèses, enchanté. Ah, ils ont copié sur la colline enchantée, qui est ce fameux festival. Vous retenez tout de suite la date pour le mettre dans votre agenda 2024. Eh bien, le premier dimanche de juillet, c'est un festival La Colline enchantée, justement, comme leur mapping enchanté. Et ça a lieu sur la colline de Mousson, avec cette spécificité qui est d'être un festival sans électricité. Donc, vous prenez contact si vous voulez y participer en tant que musicien, comédien, enfin, toute prestation artistique, tenir, pourquoi pas, de stand. Eh bien, vous prenez contact avec l'association Nectar, N-E-C-T-A-R, pour ce festival La Colline Enchantée du premier dimanche de juillet 2024. Allez, c'était notre petite promo de futurs brassages qui auront lieu donc en 2024. Donc, ce mapping enchanté, qui a donc déjà commencé, puisque la projection a lieu tous les soirs, alors jusqu'au 22 décembre, du dimanche au jeudi, c'est à 18h, les vendredis et samedis, c'est à 18h et à 19h. Et pendant les vacances scolaires, donc du 23 décembre au 7 janvier, c'est tous les soirs de 18h à 18h et à 19h. Il y a un horaire exceptionnel, donc notamment le 9 décembre, puisque c'est le défilé de la Saint-Nicolas, et il aura lieu à l'issue de l'arrivée du défilé et de la remise des clés par Monsieur le maire à Monsieur Saint-Nicolas. Alors, beaucoup, beaucoup d'activités. Non, j'ai pas la prétention de vous donner toutes les informations. Il y a notamment, au fil de vos déambulations, notamment en vieille ville, donc dans cette grande rue, nous avons passé cette explication de la musique de Saint-Nicolas avec les trois petits minos, etc. Eh bien, vous avez des grosses lanternes qui déclinent ces différents couplets de la chanson de Saint-Nicolas. Et nous nous attarderons sur quelques événements à mon sens, un peu emblématique. Alors, dans le programme, c'est marqué « Ça pétille dans tous les quartiers ». Alors, les territoires, c'est le territoire sud, c'est le territoire du centre, c'est le territoire est. Alors que, par exemple, vous avez le territoire est, jusque donc le 16 décembre, Saint-Nicolas-sur-l'Eau, et c'est le festival sous les sapins à la MJC Bazin. À la MJC Bazin, donc je vous donne un petit extrait. C'est dès le lancement de la fête de Saint-Nicolas, donc en fait il y a beaucoup de possibilités, notamment sous les sapins, avec le festival organisé chaque mois de décembre à la MJC Bazin. Deux week-ends de spectacles, de théâtre et de contes costumés, une sorte de cadeau de Noël en avance pour ceux qui trépignent d'impatience en pensant à la fameuse veillée. 8 rendez-vous, tantôt poétiques, drôles, fantastiques, lunaires, légers, féeriques, et bien plus encore, dont l'entrée libre se fait sous forme de contributions solidaires. Et il précise, on aime, et nous aussi on aime, notamment leur flyer sous le sapin, donc 15, 16, 17, 21 et 22 décembre, avec un programme particulièrement riche que vous pouvez trouver d'une part à la MJC Bazin. La réservation est fortement recommandée pour certains spectacles, puisque je rappelle, ils sont gratuits, mais également donc, avec une participation libre mais consciente, en fonction de vos moyens. Le numéro de téléphone 03 83 36 56 65, je répète, 03 83 36 56 65. Également des choses au niveau donc du territoire du centre. Le 8 décembre, la fête du patron à la MJC Lillebonne. Le 9 décembre, spectacle pour enfants avec le club Saint-Nicolas. Également, bon, le 10 décembre, si vous avez quelque argent, c'est les puces de la vieille ville. Et aussi, donc, au jardin de la Citadelle, c'est au-dessus de la porte de la CRAF, hein. Au jardin de la Citadelle, vous avez une exposition Zoé Touron et une fresque également, donc, avec le passage sous la Vèbe. Territoire Sud, également, donc, le 16 décembre, une déambulation musicale au quartier d'Aussonville. Le 17 décembre, marché de Saint-Nicolas, Ginko, au parc Sainte-Marie. Et le 27 décembre, au centre social Jolibois, le spectacle pour enfants. Et tout près de nous, donc, territoire nord, nous avons notamment des différentes activités au Buisson Ardent. Alors, nous avons le 11 décembre, décoration de sapin. Le Buisson Ardent se trouve sur le plateau de Haye, donc au début du quartier du Haut du Lièvre, en face des cliniques, hein, pour situer pour les gens extérieurs. Le 13 décembre, confection de brais de l'œuf. Le 8 décembre, observation cristaux de glace. Et le 22 décembre, alors là, ce sera à la résidence du recteur Seine, c'est se poser sur nos rivages avec la compagnie Osmosis. Là, ce ne sera pas, donc, aux Buissons Ardents. Et puis, ce qui se passe aussi dans ce week-end, ce fameux week-end du 9 et 10 décembre, c'est bien sûr donc le défilé le samedi en fin d'après-midi, mais également des tas d'animations le dimanche. Et puis également, les musées sont gratuits à ce moment-là. Alors justement, dans ce fameux programme, il est précisé que l'entrée est libre dans les musées de Nancy et de la métropole pendant tout le week-end. L'occasion d'aller rencontrer la fée électricité au musée de l'école de Nancy ou jouer avec des Playmobil au jardin botanique Jean-Marie Pelt. Découvrir comment vivent les animaux à l'automne au musée aquarium ou prendre part à des ateliers créatifs de linogravure à la bibliothèque Stanislas ou à l'église des Cordeliers. Et puis, eh bien, là, c'est notre coup de cœur. Un marché de Noël. Alors, bien sûr, il y a plein de marchés. Hein. Il y a plein de marchés de Noël des Stanislas. Hein. Ben, tout ça, vous avez dans les plans. Mais moi, je veux vous parler du Noël des animaux qui auront lieu au refuge d'Amance le dimanche 17 décembre de 13 à 18 heures. Avec différents stands, si vous voulez apporter des cadeaux pour vos animaux favoris, vous n'hésitez surtout pas. Différents stands où vous pourrez aussi, pourquoi pas, faire vos emplettes de Noël. Bien sûr, il y a le vin chaud avec des petites choses, des gâteaux à déguster ou à emporter. Et puis, si vous voulez, pourquoi pas, adhérer à la SLPA, Société Lorraine de Protection Animale, ou faire un don, notamment si vous payez un peu d'impôts, eh bien, c'est défiscalisé. Je vous redonne donc l'adresse. Pour les adhésions, pour les dons, Société Lorraine de Protection Animale, SLPA, Parc de Haye, Allée des Cornouillers, à Velaine-en-Haye, 54 840 Bois de Haye. Mais sinon, donc, ce Noël des animaux, le dimanche 17 décembre de 13h à 17h, a lieu au refuge d'Amance, c'est la ferme de la Fourrasse, 54 770 à Mance, téléphone 03 83 31 16 73. Je répète, 03 83 31 16 73. Et puis, j'espère que le bœuf et l'âne, dont nous allons entendre une illustration musicale, n'aura pas fait l'objet d'expérimentation animale, comme justement l'émission de France Inter que vous pouvez écouter actuellement en podcast sur La Terre au carré du jeudi 30 novembre. C'est une émission qui est de 14h à 15h. Et justement, ils avaient comme invité One Voice, entre autres, une association qui lutte pour permettre de diminuer et supprimer cette souffrance animale lors d'expérimentations qui ne sont plus nécessaires de nos jours. Donc, tout cela pour faire la transition entre ce Noël des animaux et puis entre le bœuf et l'âne des enfants de Noël. Où il est dit que ça se passait justement en Palestine et en soutien à la Palestine et surtout aux Palestiniens avec ce qu'ils vivent douloureusement, il nous est proposé le samedi 9 décembre à Tomblaine, à l'espace Jean Jaurès, de pouvoir justement passer un temps convivial et de solidarité en fin de journée notamment. Merci à Pierre Baudot pour cette mise en onde de ce brassage consacré à Saint-Nicolas et au concours de Mathis Baudouin pour justement révéler le Saint-Nicolas avec une voix virile. Merci à toi, Mathis.
Merci à toi de m'avoir invité, Hélène.
À bientôt dans une prochaine légende, prochainement celle du Père Noël.